La musique. Caravane à la maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4 en région parisienne et partout ailleurs, partout dans le monde entier, via le site fédération-anarchiste.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit de musique avec notre ami Laurent Pascal qui va animer l'émission. Je te laisse le soin de présenter notre invité, Laurent.
Bonjour, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Goguet.
Bonjour.
Salut Bertrand et salut. Bienvenue donc dans les oreilles libres. Peut-être que pour te présenter, on peut parler du morceau qu'on vient d'entendre.
Très voilà. Bien.
Alors, c'est un trio. Est-ce que
c'est un trio, oui, qui a été enregistré en juillet 2013 à Lisbonne, donc en compagnie de deux autres musiciens portugais que sont Ernesto Rodriguez, donc Ernesto Rodriguez joue de l'alto, ouais. Et Ricardo Guerrero, qui lui est au laptop.
Okay, donc violon alto.
Violon alto et moi je joue au saxophone alto. Oui, donc, c'est enfin, ça.
Voilà, distingué. Donc Bertrand Goguet, saxophoniste, enregistré en 2013 à.
En 2013 à Lisbonne, oui, dans une. Alors en fait, sur le disque qui s'intitule Early Reflections, il y a deux pièces. La première pièce a été enregistrée en studio dans une acoustique très mat. Mm-hmm. Et la seconde pièce qu'on a pu entendre à l'instant a été enregistrée dans le Panthéon à Lisbonne, donc qui comporte une très grande réverbe. Et ce qui nous intéressait, c'était de travailler forcément sur la confrontation de ces espaces acoustiques.
Mmh. Ça, c'est une préoccupation qui revient dans ton travail, ce rapport à l'espace, le lieu. Alors là, la prise de son, je l'ai trouvé assez particulière parce qu'il y a aussi des choses qu'on entend enregistrées de très très près, ou alors est-ce que c'est la réverbération qui lui donne.
Je pense que c'est la réverbération qui
fait un détaché un relief un particulier. D'accord. Alors, est-ce que tu peux peut-être approfondir sur ce rapport à l'espace, pourquoi c'est important pour toi,
c'est
une autre façon de voir la musique quand même, parce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir un rapport au temps comme un discours qui se déroule. Là, ce disque qui fait le choix d'avoir donc du coup deux acoustiques, produit donc deux musiques différentes.
Oui, c'est un peu l'idée d'explorer la notion d'espace avec nos instruments, mais aussi à travers le processus de l'improvisation. En fait, mm-hmm. Pour moi, l'improvisation justement, elle est vraiment intéressante lorsque non seulement elle va travailler avec les interactions avec les musiciens, mais lorsqu'elle va aussi travailler des interactions avec l'environnement, le contexte, le lieu, et plus spécifiquement les qualités acoustiques d'un lieu, d'un espace. C'est presque un paramètre supplémentaire qui intervient vraiment dans la façon de penser, de produire la musique. Mmh. Je pense qu'on ne peut pas vraiment jouer et improviser de la même façon dans un petit espace ou dans un grand espace si l'acoustique est complètement différente. Enfin, je pense que même au niveau de l'écoute, on ne peut pas produire vraiment la même chose.
C'est sûr. Donc du coup, l'intérêt, c'est d'avoir des lieux qui ont des caractéristiques acoustiques assez singulières.
Oui, c'est intéressant. Peut-être plus dans mon travail en solo, mm-hmm. où le fait justement d'être seul avec un lieu et de travailler les particularités qu'on va pouvoir trouver avec ce lieu, les résonances, les réverbérations, etc., les échos possibles, ou alors justement une matité de l'espace qui fait qu'on est obligé à chaque fois de se positionner, de se placer autrement avec sa propre musique et l'improvisation.
Mmh. Et est-ce que ça change les modes de jeu, du coup, le rapport à l'instrument ?
Oui, le plus possible. Si on travaille en écoutant l'espace, on est forcément obligé de s'adapter, d'essayer de travailler avec le lieu. Donc, le plus possible, évidemment, on a toujours nos propres matériaux et il faut faire avec nos propres matériaux. Néanmoins, le fait de jouer par exemple dans un espace extrêmement résonnant va faire qu'on va privilégier davantage certaines textures, certains timbres, certains comportements acoustiques même. Moi, ce qui m'intéresse peut-être plus particulièrement, c'est les phénomènes acoustiques qu'on peut produire soit avec l'instrument, soit avec l'espace. Et aller rechercher la production de ces phénomènes m'intéresse.
Et du coup, ce qui est aussi remarquable là, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que il y a quelques sons peut-être qu'on peut identifier comme étant des sons électroniques ou des typiques peut-être de certains instruments, mais dans l'ensemble il y a des tas de matières qui sont si on les voit pas comment elles sont faites, on peut pas.
Oui, il y a une fusion des timbres qui fait qu'effectivement il y a une masse peut-être sonore qui efface un peu les caractéristiques timbrales des instruments, ouais, c'est vrai. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, je pense, qui intéresse beaucoup d'improvisateurs, cette histoire de la fusion timbrale et instrumentale. Ouais.
Alors même qu'il y a un instrument électronique et des instruments acoustiques, donc des phénomènes d'excitation qui sont électriques ou bien juste la vibration de l'air ou de la corde qui est frottée, on vient quand même à se mêler, à se devenir une texture assez homogène. Peut-être on peut parler du coup de ton solo, parce que tu l'évoquais, et qu'il y a cette même préoccupation à l'espace, il y a cette histoire aussi de mode de jeu. On va l'écouter juste après, mais peut-être qu'on peut commencer à en dire quelques mots. Ça fait donc quelques années aussi que tu travailles.
C'est vrai que le premier solo était sorti en 2005, je crois. Qui s'intitulait Edva, sur le label justement Creative Sources. Uh-huh. Et qui était déjà une sorte de première pierre posée sur ce travail de solo. Et puis le deuxième donc est sorti il y a juste un an, en décembre 2014,
Chiro,
et qui s'intitule Chiro, qui est là pour le coup le résultat aussi d'un travail que j'ai pu faire au Japon, puisque je suis parti 6 mois là-bas, et j'ai étudié avec un maître de shakuhachi, le hankyoku, donc un répertoire pour solo pour cet instrument. Et je n'ai pas cherché du tout à copier ou à répéter une technique instrumentale, mais j'ai plus cherché à capter un esprit de travail par rapport à cet instrument avant, par rapport au placement aussi des sons dans l'espace. Mmh. Et donc cet album Chiro, que j'ai enregistré pour le coup par contre en Alsace, dans une grande abbaye, avec une acoustique justement assez grande également. Travailler aussi sur cette question de l'espace, travailler aussi sur la question des phénomènes acoustiques que j'essaye d'approcher de façon vraiment empirique.
Mmh. Ouais, on va revenir peut-être sur la notion du souffle aussi, etc. Mais on écoute peut-être un extrait du solo. Les oreilles libres avec Bertrand Goguet, donc on vient d'entendre en solo au saxophone. Je précise quand même parce que il y a des timbres finalement presque électroniques. C'est un jeu qui va, j'ai le sentiment, un peu chercher les limites en fait de l'instrument et du.
Ben oui c'est ça, c'est ce que je tente en tout cas dans ce travail. Comme on peut l'entendre, là je travaille pas mal avec des multiphoniques, donc la production de sons polyphoniques sur le saxophone qui est plutôt monophonique,
ouais.
Et aussi d'essayer de pousser effectivement le son jusqu'à ses limites, ce qui fait qu'il est toujours au bord de partir ailleurs. Ouais. Et voilà.
Bien sûr,
ouais. Donc c'est vrai que pousser les limites, c'est un bon exemple en tout cas sur l'attitude que j'essaie d'adopter parfois ouais, sur ce travail.
Et du coup, je voulais qu'on revienne sur cette histoire-là. Tu parlais du Japon, du séjour que tu avais fait en 2011 ouais. avec un maître du
Shakuhachi.
Ouais. Et donc, notamment, tu cites l'adage bouddhiste, souffler et méditer sont un seul et même geste. est-ce que ça s'entend, ça, dans ce qu'on vient d'écouter ou...
Alors ça, je sais pas. Pour moi, ça serait difficile de le dire. C'est plutôt aux éditeurs d'estimer si c'est juste ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était pour moi, dans ma démarche, enfin dans la démarche, quelque chose d'assez juste pour moi, le fait de souffler et méditer, oui, ça participe d'une même démarche en fait. Je pense que voilà,
le geste physiologique en fait rejoint aussi un état
ouais.
d'esprit ou de type
ouais,
de conscience ou
même pourquoi pas une certaine spiritualité aussi dans la recherche. Voilà, le souffle, c'est pas quelque chose de neutre. Quand on travaille vraiment le souffle de façon très précise, effectivement, on peut arriver parfois en souffle continu à avoir des états de conscience un peu modifiés, etc. Donc, voilà, on questionne ces espaces sans forcément non plus trop savoir où on va, mais en tout cas, on y va de façon intuitive, de façon empirique, et on voit ce qui surgit de tout ça, quoi.
C'est drôle de dire au revoir, mais on entend effectivement, moi je trouve des temporalités aussi assez particulière hein, là le temps qui s'étale on est en même temps sensible à des espèces de granulosités qui sont peut-être des espèces de micro événements mais quand même qui prennent une vraie importance. Moi je me trouve que ça nous met dans un état de perception de sensibilité assez spécial et du coup on peut revenir aussi à cette histoire d'espace. Tu voulais qu'on écoute un autre extrait du
oui,
disque,
bah, c'était
qu'est-ce que tu peux expliquer
ouais parce qu'en fait ce disque est fait à la fois de pièces complètement acoustiques, mais aussi de pièces acoustiques et amplifiées, et aussi de pièces complètement amplifiées. Et la prochaine que je vous proposais d'écouter, peut-être que, au lieu d'écouter la suivante, peut-être que ce serait mieux d'écouter la dernière, je crois. La dernière, la plage 8, qui n'est faite que de feedback.
D'accord.
Avec le saxophone, bien sûr. Et le saxophone est utilisé comme un générateur de feedback.
Ok, on en reparle. Les oreilles libres, Bertrand Goguet. Alors explique-nous un peu le dispositif là, de ce qu'on vient d'entendre. Tu parlais de feedback juste avant. Comment ça marche?
C'est très simple en fait. J'utilise un micro dans le pavillon du saxophone. Je me place devant une enceinte. Et donc y a un phénomène de circularité du signal.
Donc le son que tu émets avec ton saxophone est capté par le micro, du coup ressort dans le...
En fait, c'est vraiment comme un effet de Larsen, je produis un effet de Larsen dans le saxophone. Moi je ne suis pas producteur, je ne souffle pas dans l'instrument, mais par contre je module avec avec les clés en fait. Voilà, je module avec les clés le signal qui tourne entre le micro et l'enceinte.
Ah oui, donc c'est plus comme un filtre on dit.
C'est comme un Larsen en fait, c'est un Larsen maîtrisé.
Oui, mais je veux dire, du coup, la maîtrise, elle consiste en quoi?
Elle consiste à moduler le signal sur des hauteurs différentes, sur des phénomènes aussi différents. Là, on entendait sur la fin, on rentre dans des graves. Il y a des oscillations, il y a des battements, etc. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, tout ça est produit effectivement par l'ouverture des clés, la fermeture.
Voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'on entend comme un truc de souffle quelque part, de respiration.
Oui, mais je pense qu'il y a une logique dans le... Enfin, en ce cas, je l'ai pensé comme quelque chose de logique dans le disque, c'est-à-dire que les pièces qui sont produites acoustiquement ou de façon amplifiée ou avec ce phénomène de feedback, en fait, je recherche toujours un peu la même chose, c'est-à-dire toujours aller aux limites, au bord du son et essayer aussi de produire des phénomènes de battement, des phénomènes comme on a entendu. Ouais.
Et là, encore une fois, qui sont peut-être pas révélateurs d'un espace, mais au moins révélateurs d'un dispositif, du fonctionnement d'une machine, quoi. Parce que là, cette histoire de feedback, de son qui s'auto-entretient et qui tourne en boucle, ça...
Mais après, ce son est diffusé dans l'espace et la prise de son est lointaine. Elle n'est pas directement prise sur...
De ce qu'on a entendu, c'est pas le micro qui est passé dans le...
Voilà, c'est ça. On entend vraiment le son dans l'espace.
D'accord. Peut-être on peut continuer sur d'autres projets.
On peut écouter si vous voulez le trio que j'ai avec Sophie Agnel et Andrea Neumann.
Spiral Input.
Ouais, c'est ça.
On avait écouté un morceau quand on avait reçu Sophie Agnel il y a quelques années déjà. Donc on va réécouter ça avec plaisir et puis on en parle peut-être après.
Très bien.
Ok.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres avec Laurent Pascal et notre invité Bertrand Goguet.
Bertrand Goguet au saxophone qu'on vient d'entendre en trio avec Sophie Agnel au piano amplifié et Andrea Neumann qui joue du cadre de piano. Et, alors c'est amplifié aussi d'une certaine façon, avec une sorte d'électronique. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour l'enregistrement de ce disque?
Oui, oui. Bah, en fait, ce travail s'est fait au GMEA d'Albi. Mm-hmm. Et il s'est fait en collaboration avec Benjamin Momus, qui était l'ingénieur son qui nous a permis de travailler sur ce projet. Mm-hmm. Et en fait, c'était un travail vraiment qui s'est intéressé à l'amplification. Donc, on a vraiment travaillé avec des dispositifs d'amplification. Et
on retrouve la même problématique de micro et de haut-parleurs que
ouais, exactement.
On a évoqué
ouais, ouais.
Tout à l'heure. Mais là, comment ça se passe alors?
Là, comment ça s'est passé? En fait, sur la proposition de Benjamin, on a essayé d'aller un peu plus loin dans une simple. D'utiliser une simple amplification, et donc on a travaillé avec je crois 12 points amplifiés
de diffusion
ouais. Ouais. Et sauf que cette diffusion en fait était utilisée presque comme des retours pour nous sur le plateau. Mm-hmm. Mais au lieu d'avoir nos propres retours, en fait on avait les retours des autres des deux autres musiciens. Donc par exemple, moi j'avais pas de retour de sax, j'avais ouais. Un retour de piano, Sophie pouvait avoir un retour de sax sous le piano, un retour d'Andrea derrière elle, etc. Donc on avait vraiment disposé les points de diffusion sur le plateau, mais de sorte à modifier, à perturber un peu notre écoute.
Ah bah on perd complètement les repères,
voilà.
Rapport à l'espace aussi,
ouais.
et c'est compliqué.
Oui, c'est un peu compliqué, en même temps ça l'est pas, mais en même temps ça l'est voilà, quand on joue. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était évidemment de perturber nos habitudes d'écoute, nos habitudes d'improvisation pour essayer de questionner aussi autre chose dans l'amplification, dans l'écriture de la musique, etc. Ouais. Donc aujourd'hui, on ne joue plus. on rejoue là bientôt aux Instants Chavirés le 17 février. Aux Instants Chavirés, voilà. Et par contre, on n'utilise plus ce dispositif en 12 points sur le plateau parce que c'est quand même assez dense. Et puis, je crois qu'on aime bien aussi jouer tout simplement en pouvant s'entendre normalement et voilà, jouer notre musique sans être forcément perturbé.
Exploiter les trouvailles et les savourer, quoi.
Absolument.
Très bien. Un autre trio, peut-être, dont on peut parler. Il y a beaucoup de projets dans lesquels tu es partie prenante, Bertrand.
Oui, oui. Mais on peut écouter peut-être un trio qui me tenait aussi beaucoup à cœur il y a quelques années. C'était le trio avec Franz Hautzinger à la trompette et Thomas Lenn au synthétiseur analogique. Voilà, l'album s'appelle Close Up.
Eh bien, écoutons.
Thank you.
Les oreilles libres, un autre trio de Bertrand Goguet qui est notre invité aujourd'hui, cette fois-ci avec Martine Altenburger au violoncelle. Je
l'anticipe.
Je te laisse désannoncer. C'est Thomas Lenz au
synthétiseur analogique et Franz Oetzinger à la trompette.
Et la trompette.
Et moi aussi au saxophone et on joue amplifié.
Trio international. Ouais. Allemagne, Autriche, France. Ouais. Donc musique amplifiée, de musique électronique et acoustique, un beau trio. Qu'est-ce qu'on disait hors antenne sur ce trio? Bah que c'est de la belle musique. Musique de chambre, j'ai noté ça moi. Musique de chambre,
oui, c'est
qu'est-ce
vrai,
que ça veut dire?
T'as noté ça? Non, ouais, je sais pas. Ça doit être un texte.
Ça revient pour qualifier plusieurs de.
Je crois
de
que
tes projets.
Je crois que je l'avais écrit pour le trio qu'on va écouter après pour Martine Altenburger, le trio que j'ai avec Martine Altenburger et Frédéric Blondy.
Okay.
Où on parlait peut-être d'un trio qui travaillait un peu dans cette logique de la musique de chambre, je crois me rappeler vaguement.
Bon, okay,
comme ça. Mais
et concernant ce trio-là,
ce trio-là, en fait, c'était vraiment c'est déjà un trio qui a presque 10 ans, mm-hmm. et c'était aussi voilà les premiers moments pour moi de recherche avec l'amplification, et je voulais vraiment travailler avec des musiciens qui avaient aussi une certaine expérience de cette amplification, de ce mix entre acoustique et amplifié, d'aller rechercher comme ça, de confronter aussi ces espaces entre acoustique et son amplifié. Qu'est-ce que ça signifie d'amplifier un son? Il ne s'agit pas forcément de jouer plus fort, mais plutôt de faire émerger des microphonies, des microsons, etc. Et de travailler sur d'autres seuils, quoi. Et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Bon, comme on l'entend, là, c'est assez dynamique, finalement, la pièce qu'on a entendue.
Et puis, il y a une densité aussi, je trouve.
Il y avait une masse
de son très forte. Et donc ça nous conduit peut-être à prolonger la discussion sur ce rapport à l'électronique.
Ah oui, c'est
est-ce que tu peux peut-être parler, c'est une pratique qui est importante pour toi,
C'est vrai qu'à côté du travail d'instrumentiste au saxophone, j'ai une pratique de l'électronique depuis assez longtemps, parce que quand j'étais adolescent, je participais à un groupe de rock électro-industriel. Ouais. Donc depuis les années 80, je me suis toujours intéressé aux synthétiseurs, aux samplers, tout ce qui concernait les matériels électroniques. Ouais. Et donc c'est une pratique qui est effectivement peut-être moins lisible, enfin en tout cas dans mon par mon travail d'improvisateur, mais c'est vrai que j'ai composé plusieurs musiques électroniques pour des films d'artistes, pour de la danse, mm-hmm. et donc en 2013, je crois, j'ai décidé de faire un CD qui s'appelle The Turn Map.
D'accord.
Qui est une sorte de compilation de pièces que j'avais déjà faites par le passé pour de la danse ou pour des films, et puis j'avais aussi composé une ou deux pièces en plus.
Okay.
Et actuellement je travaille sur le prochain,
Et cette collaboration là, moi ça m'intéresse aussi, avec la danse et avec est-ce que justement ça ouvre d'autres espaces musicaux, est-ce que ça amène ailleurs ou est-ce que
Oui, je pense que c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est aussi un point sur lequel j'insiste souvent, c'est que le fait d'aller travailler avec de la danse ou avec des artistes qui utilisent la vidéo, moi en tout cas ça me décentre. Ça me décentre, et cette question du décentrement, elle m'intéresse vraiment parce qu'elle m'oblige à me mettre en danger ou alors à aller dans d'autres espaces qui sont moins familiers. Mmh. Et c'est aussi des rencontres humaines avec les gens avec lesquels je collabore, que ce soit des artistes vidéastes comme je pense à Christian Barani avec qui je collabore, avec Christian Merliot notamment, avec Anne Durez aussi, qui sont des artistes vraiment qui agissent dans le champ des arts plastiques et de l'art vidéo. Mmh. Et puis en danse, là récemment je viens de travailler pour une chorégraphe qui s'appelle Sofia Tukosoko, qui a écrit un solo et donc j'ai composé toute une musique électronique pour sa pièce. Donc c'est vrai que ça s'est fait vraiment pas à pas, avec un réel souci d'écoute et d'écriture, avec la pièce chorégraphique. Donc c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment du sur mesure, c'est comment aussi répondre.
Du coup on est dans une démarche plus de composition plutôt que d'improvisation.
Là c'est plus de la composition, effectivement. Mais c'est aussi envisagé, par exemple pour les films, la bande son comme un espace aussi complètement ouvert pour vraiment créer une bande son qui soit presque autonome aussi. C'est ça qui m'intéresse.
Très bien. Et écoutons le solo, comme ça on pourra rediscuter juste après.
Très bien.
Turn Map. Thank you. Les Denrées Libres, Bertrand Goguet, cette fois-ci à l'électronique solo. Ce qui me frappe, moi, en écoutant ça, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'un truc très gestuel, très physique, très corporel, en fait. C'est un peu étonnant, on a l'image d'un musicien peut-être derrière son ordi, je sais pas quoi. Et on entend des énergies, en fait, qui se déplacent.
Qui peuvent aussi même rappeler le souffle, je crois, au début de la pièce. C'est fait avec un synthétiseur analogique, tout simplement.
tout simplement, oui, se brancher, et hop, voilà. Ça marche. Il faut savoir un peu s'en servir, mais... Très bien. On continue peut-être sur les différents projets ou tu voulais rajouter un mot sur le...
Non, on peut effectivement avancer, oui.
Avançons sur le... On a parlé tout à l'heure du... J'ai dévoilé malencontreusement le trio de musique de chambre, Martine Altenburger, Frédéric Blondy et Bertrand Goguet, donc respectivement violoncelle, piano et saxophone.
C'est un trio assez ancien aussi. Là, pour le coup, on quitte vraiment l'univers de l'amplification pour vraiment être de plein pied dans le trio acoustique.
Ouais.
Et ce qui nous intéresse dans ce trio, c'est évidemment de produire une musique improvisée, acoustique, telle qu'on la connaît depuis plusieurs années. Voilà, on se connaît bien tous les trois et ce disque. Je l'aime beaucoup, en tout cas, voilà. Ouais.
Donc une complicité entre les trois. Écoutons ce trio.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission consacrée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuses, Les Oreilles Libres, avec aujourd'hui notre invité Bertrand Goguet.
Bertrand Goguet au saxophone, Frédéric Blondy au piano, Martin Altenburger au violoncelle. C'est le trio qu'on vient d'écouter juste avant. Une musique, je trouve, très, très fine, un côté très d'orfèvrerie, quoi.
Ouais, vraiment, tendu.
Il y a un côté très minutieux.
Ouais, c'est vrai.
C'est aussi, cette complicité, moi, je trouve, se traduit vraiment dans une forme d'équilibre que vous avez, parce que c'est assez remarquable qu'on entende les trois voix pour du coup là, de recherche fusionnelle comme on a pu l'entendre.
Ça va dépendre des pièces en fait sur le disque. Ouais. On a des pièces assez différentes, mais pour celles qu'on vient d'entendre, effectivement là, c'est comme on l'entend, quelque chose d'assez basé sur l'attaque, enfin sur des attaques, mm-hmm. sur une musique comme ça qui est faite d'à coup. Ouais. Donc on entend effectivement assez bien les trois instruments. Sur d'autres pièces, par contre, on peut parfois rencontrer des fusions timbrales ou des choses différentes. Ouais.
Une belle écoute en tout cas des,
merci.
Des trois musiciens, ça fait toujours plaisir. Et peut-être on peut aborder maintenant du coup un projet qui te tient à cœur, c'est l'Insub Meta Orchestra, IMO. Présente-nous alors.
L'IMO, c'est un orchestre, c'est un grand orchestre suisse de musiciens improvisateurs qui a été initié au tout départ par Cyril Bondy et d'Assise, et qui
donc en 2010, cinq ans,
qui sont tous les deux basés à Genève. Et voilà, donc ces deux musiciens ont initié ce projet qui réunit, je crois, à peu près une quarantaine de musiciens suisses, à l'exception de deux musiciens français dont je fais partie avec Sébastien Branche, autre camarade saxophoniste. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai proposé qu'on écoute aussi une pièce du dernier CD qui a été enregistré à Genève l'année dernière. Et oui, ça me tient particulièrement à cœur pour plusieurs raisons, mais notamment voilà les recherches qui sont envisagées au sein de cet orchestre, et puis aussi pour l'atmosphère qui règne dans ce projet.
Et notamment, c'est vrai que moi je suis toujours passionné par ces questionnements autour des grands ensembles. Il y a l'ONSEM notamment, on a parlé à cette antenne. Il y a l'IMO, mais il y a le Splitter à Berlin. Il y en a quelques-uns, mais il y a peu, et ça pose toujours des questions qui nous intéressent beaucoup ici, c'est-à-dire en fait le rapport de l'individu au groupe,
au collectif,
de la responsabilité de chacun, de la façon dont une cohésion peut ou non se construire. Comment est-ce que vous arrivez du coup à bâtir quelque chose.
En fait, au sein de cet orchestre, au tout départ, quand je suis arrivé, c'était plutôt une approche très très libre de l'improvisation. Et puis plus le temps a évolué, plus Cyril et D'Incise ont plutôt fait le choix justement de travailler sur presque l'écriture de pièces et de proposer des pièces comme ça assez précises, qui permettait finalement de se positionner autrement justement sur cette question du collectif et de l'individu. Et voilà, c'est vraiment un mouvement, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une recherche aussi empirique qui avance. C'est comment travailler aujourd'hui avec un grand ensemble de musiciens improvisateurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs approches possibles, et on le voit à travers les différents orchestres qui existent. Ouais. Les esthétiques sont différentes, les approches sont différentes, les expériences sont différentes. Donc voilà.
Parce que c'est difficile de spontanément, je pense que c'est un espèce de magma sonore.
Oui, et puis très vite, si on est très très libre, on peut aussi très vite repartir sur des schémas de jazz ou de free jazz, etc., sur des modes esthétiques qu'on connaît déjà. Mais pourquoi pas, il y a des très bons orchestres qui le pratiquent, mais là, en l'occurrence, c'était une recherche peut-être un peu différente. Donc c'était essayer de trouver peut-être aussi une esthétique particulière, propre, interroger ce grand ensemble.
Écoutons peut-être donc du coup un extrait, et puis comme ça on en rediscute après.
Parfait.
À nous, c'est l'Insub Meta Orchestra qu'on vient d'entendre, un grand ensemble, donc une quarantaine de musiciens basés en Suisse, dont ouais, tu fais partie, Bertrand Goguet, qui est notre invité dans les oreilles libres aujourd'hui au saxophone. C'est troublant, il y a des moments de silence absolu, des effets de contraste. Ça, par exemple, comment est-ce que ça peut se négocier en grand orchestre? Il y a des gestes.
Oui, bien sûr, il y a toute une codification gestuelle assez simple. En fait, il faut juste lever un bras pour s'arrêter.
Les autres regardent, on y arrive.
C'est ça. Okay. Mais on connaît en fait surtout la structure de la pièce. On a en mémoire la structure des pièces qu'on joue et on a effectivement besoin souvent soit d'un geste, soit d'un timing assez précis pour des arrêts, pour des départs en tout-y.
Donc ça c'est le rapport au temps, pour la fabrication des textures, est-ce qu'il y a aussi des écritures, des codifications, ou est-ce que chacun se débrouille pour trouver sa place?
Non, à chaque fois il y a des choix qui sont faits sur les timbres, sur les familles instrumentales, etc. Il y a vraiment des choix, des sélections, des choix qui sont faits par rapport au timbre précis qui est souhaité à tel moment de la pièce.
Et du coup la marge de manœuvre elle est où pour l'improvisateur, qu'est-ce qui...
Elle est plutôt à l'intérieur du matériau et plutôt dans sa cohésion avec le reste des musiciens qui sont aussi sur la production d'une même matière. Donc essayer de travailler vraiment à l'intérieur de ces matières, naviguer à l'intérieur de ces matières et la rendre cohérente aussi de façon collective.
Ouais. Et sans doute des choses que des interprètes, non pas par manque de qualité, mais s'ils étaient peut-être trop corsetés dans un système d'écriture classique, n'arriveraient pas à faire parce que des ajustements qui sont assez fins, qui demandent une écoute, une inventivité.
Absolument.
D'arriver à se positionner en tant qu'improvisateur, c'est plus évident, on va dire. Et voilà, une écoute. Le maître mot. On poursuit peut-être ou on revient à ce travail au saxophone. On passe d'un grand ensemble à un solo, encore un contraste. Alors on parlait tout à l'heure, on a écouté un extrait de Chiro, qui est le disque qui est sorti là plus récemment, en 2014. Mais c'est un travail qui est plus ancien.
C'est ça, ouais, il est sorti en 2005. C'était mon premier disque, et c'était un solo aussi de saxophone alto et soprano. Ouais. Le soprano, je le joue plus vraiment aujourd'hui, mais c'était un premier travail que j'avais souhaité enregistrer dans des chapelles aussi, une en Bretagne et une dans le sud de la France. C'est enregistré par Pierre-Olivier Boulan.
C'est difficile. Enfin, beaucoup de musiciens enregistrent en solo après un temps de maturation.
Oui.
Il peut y avoir beaucoup de rencontres. C'est rarement les premiers disques, en fait, les solos, parce que. Enfin, c'est des choses qui peuvent revenir aussi, mais parce que ça. Ça engage beaucoup, justement.
Un
solo, c'est.
Mais c'est vrai que c'est mon
premier. Il n'y a pas la béquille ou un truc comme ça.
Non, non. C'était mon premier CD, en fait, en 2005, mais j'étais déjà engagé dans l'improvisation depuis plusieurs années et je n'avais pas sorti de disque aussi volontairement parce que je sentais que j'étais pas mûr ou que je n'avais pas de projet suffisamment intéressant et moi-même, je n'en sentais aucune nécessité. Et là, par contre, arrivé à ce moment-là, j'ai eu l'envie, effectivement, de poser peut-être quelque chose pour voir où ça allait mener aussi.
Parce qu'il y a aussi des improvisateurs, je me souviens Sophie Agnel par exemple, qui nous dit que ça n'a pas toujours justement cette évidence là d'enregistrer une musique qui est improvisée, y compris on a beaucoup parlé dans cette émission du rapport à l'espace, donc ça veut dire que c'est enregistré dans une certaine acoustique, mais ça va être écouté dans une autre, y compris quelquefois avec une diffusion qui est très standardisée, c'est de la stéréo, alors qu'il y a eu toute une réflexion là-dessus, donc on peut y perdre aussi, devoir sacrifier beaucoup de choses. Toi, ça te...
Non, parce qu'en fait, moi, je l'ai plus envisagé comme vraiment une photographie d'un travail, quoi. C'est-à-dire que c'est une étape, c'est une première étape, et cette première étape m'a emmené ensuite ailleurs, donc c'était aussi une façon, à un moment donné, de faire un peu un arrêt, pas sur image, mais sur son, ou sur musique pour voir où j'étais et ce que je voulais faire avec le saxophone. Pour moi ça a été un moment aussi important travail
et ça amène du coup à un travail de composition quelque part, c'est-à-dire décider de choisir tel ou tel extrait, où ça commence, où ça s'arrête, est-ce que
bien sûr C'est pris comme après, il y a les limites aussi du corps, quoi. C'est-à-dire que quand on improvise dans un espace et qu'on souffle dans un saxophone, au bout d'un certain temps, il y a une fatigue normale qui arrive, donc ça indique qu'il faut mieux arrêter. Sinon,
ok.
Voilà. Après, ça peut être aussi intéressant de continuer à jouer très fatigué, ça produit aussi des choses intéressantes, mais oui, non, c'était plus une étape, en fait. C'est une...
Oui, parce que c'est vrai que le temps, ce que tu veux dire par là, c'est que le temps de l'enregistrement du disque n'est pas forcément le temps de l'écoute du disque.
C'est-à-dire que
ça peut résumer en moins d'une heure, on va dire classiquement, quelque chose qui a mis peut-être plusieurs jours.
Voilà,
pour,
plusieurs jours, même plusieurs années, je
même
pense.
Plusieurs
parce que
années,
c'est un travail quotidien. Ouais.
D'accord. Eh bien, écoutons alors, et toi. Bertrand Bertrand Goguet, saxophone solo. Donc c'était le disque Edva enregistré en 2005.
C'est ça.
Et l'émission Les Oreilles Libres arrive à son terme. Il y a un projet, moi, qui me plaît énormément, dont on avait déjà parlé avec Pascal Battus, pareil, il y a quelques années à cette antenne, et qui est le projet Chantier, que tu mènes également donc avec Eric Lacaza, qui s'occupe de la phonographie, comme on dit. Pascal Battus, lui, qui avec ses moteurs de Walkman, est-ce que tu peux nous présenter ce projet, puis on l'écoutera en fin d'émission.
C'est un projet qui existe maintenant depuis aussi plusieurs années, qui est parti d'un duo au départ que j'avais avec Pascal et qu'on a souhaité transformer en invitant notamment Eric Lacaza à travailler avec nous. Et puis plus spécifiquement, on ne souhaitait pas vraiment avoir un projet pour nous produire en concert. On souhaitait plutôt envisager de produire des moments de travail, de recherche, qui échappent un peu à la salle de concert, au moment de présentation publique. Et ce qui nous intéressait plus spécifiquement, c'était d'aller interroger, d'aller questionner, d'aller expérimenter des lieux, effectivement, en chantier.
Voilà, c'est le nom du projet, chantier.
C'est le nom du projet, voilà. Ouais. Et donc, on a été sur plusieurs chantiers, passé des journées à travailler avec nos propres outils, le saxophone, des matériaux que Pascal trouvait, et puis Eric qui travaille aussi la prise de son avec des focales à chaque fois différentes. Mais au départ, on n'a pas vraiment de logique ou de désir précis de restitution de disque ou quoi. On était juste là pour vivre le moment.
Les chantiers en cours, donc c'est ce qu'il faut dire. Effectivement, il y a des travailleurs
sont
là pour construire
et vivants, et on rencontre les gens. On a découvert aussi la réalité sociale des chantiers. Donc c'est tout ça qui nous intéresse. En fait, il y a à la fois une dimension un peu anthropologique, mais aussi sonore, mais aussi acoustique, etc. Ça croise plusieurs champs. Et voilà, donc le premier disque qui a été fait, je dis le premier parce qu'il y en aura peut-être, j'espère, d'autres projets. Mais ce disque, oui, qui est sorti chez Another Timber il y a 2-3 ans, en fait, a travaillé, s'est articulé sur une dialectique entre le lieu du chantier même où ont lieu des prises de son, et puis une autre prise qui a été faite pour le coup aussi dans un studio, plutôt avec une acoustique mate, sèche. Et on a travaillé plus sur la mémoire du chantier, c'est-à-dire que quand on est dans le chantier, on travaille, voilà, on est dans le chantier à travailler avec sa réalité brute. Ce qu'on souhaitait faire, c'était se retrouver en studio et tenter de reproduire des phénomènes sonores, acoustiques, parfois musicaux, avec la mémoire de ces lieux, voir ce qui pouvait advenir ou pas, et de confronter ensuite ces deux logiques de prise de son, ces deux logiques de travail. Et ça a donné le disque Chantier 1.
Et on retrouve la démarche dont tu parlais tout à l'heure de se décentrer, quoi, c'est-à-dire d'être bousculé dans sa pratique par un contexte relativement étrange par rapport à ce qui est le contexte de concert habituel. Et moi, ce que je trouve drôle, quand même, c'est que cette production sonore improbable, exceptionnelle ou extraordinaire juste au sens étymologique, dehors de l'habitude, elle se retrouve en fait dans un contexte qui est celui du quotidien, en fait, celui ce que vivent beaucoup de gens de façon tout à fait banale et anormale. Ce qui peut aussi du coup faire un décentrement dans l'autre sens, c'est-à-dire interroger les gens qui sont là sur la dimension sonore de ce qu'ils font, ou en tout cas qu'est-ce que vous foutez là, vous, un saxophone.
Les gens peuvent aussi très souvent se demander si on n'est pas des acousticiens qui viennent faire des tests dans l'espace. Alors soit ils sont intéressés, soit ils sont pas du tout intéressés. Parfois on est complètement invisible aussi sur le chantier, les ouvriers n'ont rien à faire, et parfois par contre ça engendre des discussions super riches ou des réactions magnifiques. Je repense à notamment notamment à des ouvriers kurdes qui se sont regroupés au rez-de-chaussée d'un bâtiment en construction, qui se sont mis à chanter un chant traditionnel kurde avec en plus des pas de danse. Donc c'était un peu improbable, ouais, ils étaient avec leur casque, et donc il y avait toute cette dimension qui était aussi présente dans les expériences qu'on a eues, qui ont été différentes. Je vais pas tout dévoiler parce que mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui nous intéresse vraiment, dans ne serait-ce que dans l'échange. Et l'échange, il est pas, on peut pas tellement le restituer sur un disque, ou
pour ça peut-être du coup que justement les formes de les traces que vous envisagez sont multiples. Tout à l'heure tu me parlais
pour l'instant c'est embryonnaire, mais c'est vrai que la première pierre de Stravec, c'était le disque dont on parlait. Il y a aussi un film qui a été tourné par Christian Barani lorsque nous travaillons sur le chantier de la Philharmonie, parce qu'on a pu accéder au chantier de la Philharmonie, donc ça c'était aussi une grande aventure. On aimerait peut-être aussi produire une pièce radiophonique. Voilà, c'est peut-être aussi d'envisager d'autres formes de restitution qui nous permettent aussi d'interroger autrement notre expérience et ne pas la contenir seulement dans un objet disque,
dans un format standard.
Ouais, essayer plutôt d'éclater tout ça, quoi.
En tout cas, un projet passionnant sur lequel j'espère qu'on aura l'occasion de revenir très très prochainement. Mais c'est le temps sans doute de faire les annonces, puisque là, on est vraiment on a dépassé 16 heures. Je commence. Vas-y. Par moi, comme ça, ce sera fait. Ce soir, au Milor, à 20h30, le Milor, c'est 76 boulevard de Belleville, vous pourrez écouter Bertrand Goguet en solo, avec donc saxophone et un petit peu de feedback, quoi. On verra, c'est encore en négociation. En tout cas, ne manquez pas ça. Et également le duo, donc j'aurai le plaisir de jouer avec Pascal Battus, donc Laurent Pascal, poste de radio et harmonica, et puis Pascal Battus avec ses sans doute moteurs de Walkman et dispositif un peu amplifié. C'est aussi en cours de négociation. Donc ça, c'est ce soir au Milor, boulevard de Belleville, 76 boulevard de Belleville, à 20h30, et c'est 5 €. Voilà, ça c'est fait.
Nous y serons, et alors nous serons peut-être aussi demain au Parvis de Bagnolet, soirée organisée par le collectif X-Tête à Volta Niente, duo avec Philippe Desclés, Lutri Sauvage Électronique, et notre ami Marco Cacialupi. Marco, l'ami Marco, qui jouera de la flûte et des pédales. Également au programme Moments for Nothing, c'est de l'ambiante Krautrock, et Ujaya, de l'ethno-ambiante. C'est également 5 € au Parvis de Bagnolet, 27 rue Adélaïde La Haye, à Bagnolet, métro Gallieni.
Également demain, donc c'est samedi à 19h. Janvier 19h. 2016, pardon, je t'ai coupé.
Oui, non, je disais que c'était à 19h.
À 19h demain, ouais. Sur le parvis de Bagnolet, et donc à 20h30, cette fois-ci à la cave Polonceau, à l'atelier de Bernard Thomas Roudex, c'est 47 rue Polonceau. Le duo Cyprien Busolini et Deborah Walker, la violoncelliste qu'on avait reçue il y a quelques temps. Cyprien Busolini joue du violon alto. Ils interpréteront des pièces d'Antoine Beuguer, je crois qu'on dit, Busolini et Walker, donc leurs propres pièces, et puis une d'Antoine Beuguer, je crois. Ça c'est la première partie, et la deuxième partie c'est le trio Pierre-Antoine Badarou, Bertrand Dinsler et Antonin Gerbal, qui joueront des objets. Hein. Je crois que là, cette fois-ci, ils ont décidé d'en amasser un paquet et de les partager et de les jouer en trio. Donc demain soir à la cave Polonceau, 47 Polonceau, c'est 47 rue Polonceau, c'est à 20h30 et c'est 10 €.
Alors, mardi 12 janvier à 20h, au Note, 1 quai des Célestins, dans le 4e arrondissement de Paris, Konnichiwa B. Alors, Konnichiwa B, c'est Konnichiwa A plus Nina Garcia alias Mariachi. Et Konnichiwa A, c'est Blanche Lafuente à la batterie, que nous avons entendu la semaine dernière, qui était dans nos studios pour ce grand bordel de 3 heures qu'on a fait pour le jour de l'an. C'était le concert du Nouvel An, et Blanche, très sympathique Blanche, jouait des percussions. Et Ce duo Konnichiwa, c'est Blanche Lafuente et Morgane Canet au saxophone. Donc là, elle joue avec la guitariste Mariachi. C'est du power rock noise kiff. C'est le genre, hein, c'est très, très nouveau. Entrée libre au chapeau, c'est au Nôtre, 1 quai des Célestins, dans le 4e arrondissement de Paris, à 20h, mardi 12 janvier. Mercredi 13 janvier, à 20h, Université populaire et libertaire du 11e arrondissement. Le ciné de la Commune vous propose La Commune 1871, 4e partie du film de Peter Watkins. Essayez bien sûr à la librairie Publico 145 rue Hameau dans le 11e arrondissement de Paris. J'en profite pour signaler que la librairie est fermée toute la semaine pour inventaire. Réouverture lundi prochain aux horaires habituels. Enfin, ne manquez pas jeudi 14 janvier à 20h à Main d'œuvre 1 rue Charles Garnier à Saint-Ouen. Coax à Main d'œuvre avec Jean-François Pauvros à la guitare. Les fabuleux snaps que nous avions eu le plaisir d'écouter lors du festival des Oreilles Libres. Snap, c'est le trio Julien Després à la guitare, Yann Joussin à la batterie, Clément Edouard à l'électronique et au clavier. Et pour terminer, Wintermass, trio avec Sayoko à la voix, Jacques Di Donato percussion et Frédéric Gallier à la basse. Ça va être quelque chose aussi ça. Donc à Main d'œuvre, jeudi 14 janvier à 20h, 1 rue Charles Garnier à Saint-Ouen. Voilà.
Très bien, bah merci beaucoup Bertrand d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Présenter ton,
c'était un plaisir.
Ton travail. On s'est dit à tout à l'heure au Milord et puis on écoute.
On se quitte avec Chantier. Je signale que la semaine prochaine nous recevrons Claude Parle et Jean-Marc Foussa, accordéoniste et électronicien, on va dire, qui nous feront peut-être quelque chose en direct des studios. Allez, bah salut.
Ciao.
Ouais, je vais la toi. Ah. Quel grattoir. Bon, là, va travailler là. Grattoir.
Niye bal yaptın bari? Bal yap buralarda.
Dur oğlum Allah'a karışmışız abi. Bizden onlar sapele kapıyor. Bizdeki Fransızları alıp kullanıyor. Evet. Bunlar da bir şey. Ya, sen de var.
Gel bana beni.
Al kalanı çap kalanı.